Les chemins de la connaissance. Cette semaine, Pascal Lismonde nous présente le stoïcisme à l'ombre d'un portique. Aujourd'hui, le nouveau stoïcisme, les Romains et l'histoire, avec Carlos Lévy et Marcel Conche. Carlos Lévy, on sait que de la Grèce à Rome, le chemin des idées est classique. On dit que la pensée stoïcienne va pénétrer la Grande République dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ grâce à une ambassade de philosophes grecs, un académicien, un péripatéticien et un stoïcien. Mais on sait aussi qu'en réalité, à ce moment-là, ce n'est pas le stoïcien qui sera le plus en vogue et que ce n'est que plus tard que vont apparaître les trois grandes figures du stoïcisme romain, c'est-à-dire Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Donc, même si on a un peu trop tendance à établir une équation stoïcisme égale Rome, il faut la tempérer car les Romains adhèrent à des courants contradictoires. On sait que les délices de Capoue ne sont sûrement pas inspirées de l'austérité du portique. Donc Carlos Lévy, expliquez-nous comment se manifeste ce stoïcisme romain.
Très sommairement, on peut distinguer deux grandes orientations. C'est une différence que l'on a parfois un peu trop durcie, mais qui, à mon avis, reste vraie. Il y a un stoïcisme incarné par le philosophe Panaetius, dont l'influence a été considérable, qui a essayé de s'adapter à la réalité romaine et qui s'est montré peut-être plus compréhensif pour des valeurs romaines comme le droit de propriété ou encore comme l'impérialisme, l'extension de l'imperium. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si Panaetius a été l'ami de Scipion Émilien. Et de l'autre côté, on a une version plus universaliste, plus révolutionnaire, entre guillemets, du stoïcisme, qui a été incarnée par Blossius de Cumes, l'ami, le conseiller de Tiberius Gracchus, dont on sait qu'il a essayé d'introduire à Rome une réforme agraire qui lui a coûté la vie.
La célèbre famille des Gracques, qui était une sorte de modèle de la vertu romaine, précisément.
Oui, au moins pour les admirateurs des Gracques, puisque Cicéron, au contraire, est généralement assez dur à l'égard de cette famille. Ce qui est certain, c'est que à Rome, se sont transplantées, exprimées les différences déjà inhérentes dans le stoïcisme grec. Et ces différences vont apparaître de manière d'autant plus éclatante qu'elles vont être transposées dans le monde de l'action politique, dans le monde de l'histoire. Et le stoïcisme romain aura son héros, son martyr en la personne de Caton d'Utique, l'adversaire de César, et le suicide de Caton d'Utique en 46 va rester une sorte de second moment fondateur du stoïcisme romain.
Pourquoi ce suicide ?
Eh bien, parce qu'il avait préféré se tuer plutôt que de supporter la dictature du vainqueur, c'est-à-dire de César. Et en cela, cet homme, qui avait été à la fois un grand homme politique romain et un grand stoïcien, et cela est symbolisé par le fait, raconté par Cicéron, je crois qu'il lisait des discours stoïciens lors des séances du Sénat, eh bien, cet homme a appliqué la doctrine stoïcienne qui est que le suicide est permis lorsque la réalité politique ne permet aucun espoir.
Ne dis jamais sur quoi que ce soit, j'ai perdu cela, mais je l'ai rendu. Ton fils est mort, tu l'as rendu. Ta femme est morte, tu l'as rendu. On t'a pris ta terre, voilà encore une restitution que tu as faite. Mais celui qui me l'a prise est un méchant. Que t'importe par les mains de qui celui qui te l'a donnée a voulu te la retirer ? Pendant qu'il te la laisse, use-en comme d'une chose qui ne t'appartient point, comme les voyageurs usent des hôtelleries. Épictète.
Et alors, si l'on prend les éléments de doctrine, enfin, compte tenu des réserves que vous avez apportées, quel est le tournant que les Romains vont insuffler à la pensée stoïcienne classique, enfin, la pensée grecque?
Alors, le tournant le plus important, c'est, me semble-t-il, l'idée que la philosophie doit être vécue dans l'histoire. C'est la condamnation chez pratiquement tous les philosophes romains, et en tout cas chez tous les stoïciens, c'est vrai qu'il y a une réserve pour les épicuriens, ceux qui vivent à l'ombre des écoles, et qui sont en quelque sorte protégés par leur statut de philosophe professionnel.
Ou combien la réserve chez les épicuriens, puisque précisément il s'agissait de se mettre en dehors de la vie politique, de la vie de la cité.
Oui, il y aurait quelques nuances à apporter, mais c'est vrai que dans le stoïcisme, en tout cas, on a vécu la philosophie stoïcienne dans l'histoire, et que c'était probablement beaucoup plus difficile que de la vivre à l'ombre des écoles. Mmh. Alors, vous me direz, c'est simplement un changement de milieu, mais ce changement de milieu induit des changements de perspective, des différences dans l'approche des choses, qui sont beaucoup plus difficiles à conceptualiser, mais qui donnent cette texture, ce style particulier au stoïcisme romain. Et j'ajouterai encore que le stoïcisme romain a utilisé un mode d'expression privilégié qui est la sententia. La sententia, c'est-à-dire cette phrase courte qui enserre une pensée dans la brièveté, dans la concision, de manière à la rendre plus forte, plus efficace.
Vivre dans l'histoire, c'est aussi en référence avec cette grande période de l'histoire romaine, puisque on se situe là donc au 1er, 2e siècle, juste après Jésus-Christ. Sénèque était le précepteur de Néron. Marc Aurèle lui-même sera empereur, donc c'est un grand moment encore de l'expansion romaine en Méditerranée. Donc il semble que cette philosophie finalement serve aussi au dessein de la Pax Romana.
Oui, la Pax Romana n'a jamais été vécue par les stoïciens romains comme quelque chose qui serait en contradiction avec l'expansion romaine. Ils l'ont vécue comme une sorte de corollaire, d'expression de la volonté de rationalité inhérente au stoïcisme. Et étendre l'Empire romain pour Sénèque, comme pour Marc Aurèle, c'était apporter le règne de la raison à des populations qui vivaient dans une certaine obscurité.
Avec en même temps, je suppose, l'idée d'un grand dessein qui doit être celui de l'individu quand il s'affronte à la société, enfin quand il essaie de trouver sa place dans la société, et qui semble un élément très important de l'éthique stoïcienne.
Oui, l'individu, dans la pensée stoïcienne en général et dans la pensée des stoïciens romains en particulier, doit œuvrer non seulement pour son amélioration personnelle, mais pour l'amélioration de toute la société. Le philosophe stoïcien est quelqu'un qui aime l'humanité, et ce thème est constant, notamment chez Marc Aurèle, qui se met en garde souvent contre la tentation du mépris ou de la haine. Alors, de manière très concrète, en quoi les stoïciens romains ont-ils modifié la société romaine? On peut évoquer plusieurs aspects de cette action. Par exemple, d'une manière générale, un souci de plus grande humanité dans le traitement des esclaves. Chez Sénèque, notamment, et en particulier dans une lettre célèbre à Lucilius. On peut également penser que les stoïciens romains ont été séduits par ce point de la doctrine politique du portique qui consiste à dire que la meilleure constitution et la constitution mixte, celle qui essaie de concilier les trois formes premières de gouvernement. Et dans l'attitude de Sénèque à l'égard de Néron, il y a certainement cette idée que le pouvoir doit être tempéré par le conseil de la raison, qu'il s'agisse de la raison du précepteur philosophe ou de la raison du Sénat.
Et de même que par rapport à l'édification, même, disons, cette recherche éthique, il y a un célèbre traité de Sénèque qui s'appelle de la vie heureuse, des Vita Beata, ou aussi de la tranquillité de l'âme, ou encore de l'amitié. Il semble que ce soit à chaque fois des éléments qui sont repris dans ce même sens, alors qui avait été insufflé par la pensée grecque.
Oui, avec toujours cet apport supplémentaire qui est la confrontation à la réalité. On trouve notamment dans le De Vita Beata de Sénèque, auquel vous avez fait allusion, un passage très intéressant dans lequel Sénèque répond à ceux qui lui reprochent de trop aimer le pouvoir et de trop aimer l'argent. Autrement dit, les griefs qui ont toujours été et qui sont encore de nos jours adressés à Sénèque. Et l'argumentation de Sénèque, eh bien, peut convaincre ou ne pas convaincre, mais elle présente le mérite d'avoir été formulée de manière très cohérente, très forte. Sénèque dit qu'il n'est pas un sage, qu'il essaie de progresser sur le chemin de la sagesse et que chacun de ces petits pas en direction de la sagesse est méritoire. C'est bien sûr la doctrine du progrediens.
Qu'en est-il alors de la philosophie du destin, puisque c'est une catégorie que les stoïciens grecs avaient abondamment commentée, avec cette idée donc qu'il y a une fin des choses, que le monde va vers une fin, et que l'homme lui-même doit, à l'intérieur du temps de vie qui lui est imparti, accomplir justement son destin. Sénèque est l'auteur de traités, mais aussi de très nombreuses tragédies, où il reprend d'ailleurs toute la thématique grecque. Enfin, je pense à Thieste en particulier, qui est quand même l'histoire, s'inscrit directement dans l'histoire des Atrides.
Oui, bien sûr. Alors, cette mise en scène du destin par Sénèque a donné une couleur romaine à la philosophie stoïcienne du destin, alors qu'elle avait été, bien sûr, abondamment exprimée par les stoïciens grecs. Ce qu'il y a d'intéressant chez Sénèque, c'est la tentation qui affleure parfois d'imaginer quelqu'un qui irait au-delà du destin. Et bien sûr, la doctrine stoïcienne, c'est d'obéir au destin. La sagesse, c'est de se conformer au destin. Mais on trouve dans les tragédies de Sénèque, et notamment en ce qui concerne le personnage d'Hercule, cette idée d'avoir vaincu les destins, qui rejoint une autre idée, celle-là de caractère plus philosophique de Sénèque, à savoir que le sage a plus de mérite que les dieux, parce que les dieux ont hérité, pour ainsi dire, par nature de la sagesse, alors que la sagesse humaine est acquise.
C'en est fait. Mon destin se dévoile. Ce jour est le dernier de ma vie. Ce sort m'avait jadis été prédit par le chêne fatidique et par le bois sacré du Parnasse. Victorieuse Alcide, tu succomberas un jour sous les coups d'un homme tué par toi. Telle est la fin dernière qui te sera réservée une fois que tu auras parcouru les mers, la terre et les enfers. Je ne me plains plus. C'est ainsi qu'il était convenable que je finisse, afin que le vainqueur d'Hercule ne lui survécût pas. Choisissons maintenant une mort glorieuse, mémorable, illustre, parfaitement digne de moi. Je rendrai cette journée célèbre, que l'on coupe toute cette forêt et que le bois de l'Œta soit abattu. Qu'un immense bûcher reçoive Hercule, mais que la flamme qui consumera Hercule éclaire le monde tout un jour. Poursuis désormais seule ta route, ô soleil. Je te quitte. Moi qui fus partout ton compagnon, je vais au Tartare. Je gagne le royaume des Mannes. Mais j'emporterai pourtant là-bas, dans leurs abîmes, cette gloire insigne de n'avoir jamais été vaincue, moi, Alcide, par aucun fléau qui m'attaquait en face. Et d'avoir vaincu tous les fléaux en les attaquant en face, moi, Alcide. Sénèque, Hercule furieux.
Sénèque a toujours pensé que la sagesse stoïcienne devait se réaliser, qu'elle n'était pas une sorte d'idéal après lequel on devrait courir indéfiniment, un sage tous les 100 ans, plus rarement encore, mais quelqu'un, donc le sage, qui devrait exprimer sa sagesse dans la société dans laquelle il vit. Et en cela, Sénèque se montre l'influence qu'il a subie de l'école des Sextii, une école philosophique purement romaine, qui se défendait d'être stoïcienne, mais qui a beaucoup défendu justement l'idée de cette présence immédiate de la sagesse.
Pour autant, il lui faudra achever sa vie d'une manière assez tragique lui-même, puisque Sénèque recevra l'ordre de se suicider de la part de Néron, puisqu'on l'accuse d'avoir trempé dans une conspiration. Et donc c'est aussi une manière d'accomplir un destin stoïcien.
Les stoïciens romains ont été marqués par le suicide de Caton. Et c'est devenu pour eux un modèle, un exemple à suivre lorsque la situation devient intenable. Et si vous le permettez, je ferai un rapprochement qui peut paraître un peu étrange entre la sententia stoïcienne et le suicide. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, de montrer que l'on est parfaitement maître de ce qui, par nature, est difficilement maîtrisable, qu'il s'agisse de la pensée ou de la vie. C'est laisser l'interlocuteur sans autre réaction possible que l'admiration.
Mais est-ce que la mort serait affaire de logique, alors ?
La mort est-elle affaire de logique ? Oui, si l'on admet que le système stoïcien est entièrement présent en chacune de ses parties, en chacun de ses moments. Donc, la décision de Sénèque n'est pas une décision de caractère purement éthique. Dans son esprit, du moins on peut le supposer, c'était une décision de caractère également logique et je dirais de caractère également physique.
La vie de Marc Aurèle, donc l'autre grand stoïcien romain, est moins tragique quant à sa fin dernière, mais tout autant marquée de certaines désillusions, puisque ce grand empereur qui a à combattre contre certaines invasions barbares, je pense aux Parthes qui sont parmi les plus célèbres de l'époque, a à souffrir dans sa vie privée quelques vicissitudes, puisque lui-même donne souvent l'image de la résignation, mais sa femme était plutôt infidèle, il a eu quelques malheurs avec son fils, donc il semble que cette propension à la sagesse qu'il développe dans ses écrits soit une manière de se résigner.
Ça ne devait pas l'étonner dans la mesure où lui-même dit souvent dans les pensées que le spectacle du monde est un spectacle désolant. Mais qu'en même temps, ce spectacle désolant ne doit susciter d'autres réactions que la compréhension et l'amour. Et c'est bien sûr ce qui fait la force et peut-être le caractère tragique du personnage de Marc Aurèle, qui n'est pas un personnage enfermé dans sa sagesse, mais un personnage en constante communication avec les autres et qui dit dans une de ses pensées, je crois, qu'il faut qu'il puisse voir dans l'âme des autres, mais il faut aussi que les autres puissent voir dans sa propre âme à lui.
L'Asie, l'Europe sont des coins du monde. Toute la mer n'est qu'une goutte de l'univers. Le mont Athos n'est qu'une motte de terre. Le temps présent n'est qu'un point dans la durée. Toutes choses sont petites, changeante, périssable. Tout vient de l'univers, tout est parti de ce commun principe qui gouverne les êtres. On en est la conséquence nécessaire. Même la gueule du lion, les poissons mortels, tout ce qui peut nuire, comme les épines, la boue, sont des accompagnements de ces choses si nobles et si belles. Ne va donc pas t'imaginer qu'il y ait là rien d'étranger à l'être que tu révères. Réfléchis à la source véritable de toute chose. Marc Aurèle.
Est-ce que l'on pourrait dire, en conclusion, Carlos Lévy, si l'on essaie de rassembler, je sais que les conclusions, quelquefois, font partir sur des routes un petit peu trop divergentes, mais si l'on essaie de rassembler cet apport de ce qu'on appelait le néo-stoïcisme romain, est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi une nouvelle proposition quant au rôle de la divinité dans l'univers et qui aurait fait en quelque sorte le lit aussi du christianisme?
Oui, puisque d'une part le stoïcisme a toujours accordé une grande importance non seulement à la divinité en tant que raison de l'univers, mais même aux différents cultes dans lesquels il a vu l'expression populaire, naïve, maladroite d'une vérité, à savoir que la providence régit l'univers. À l'époque de Marc Aurèle, c'est encore plus vrai puisqu'il y a une religiosité plus grande de la société romaine. Et que le stoïcisme romain païen ait préparé d'une certaine manière la voie au christianisme par la création d'un vocabulaire, par la diffusion de certains thèmes, cela me paraît tout à fait évident.
Et vous-même, Marcel Conche, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de cette orientation chrétienne ?
Saint Paul était du même pays que beaucoup de stoïciens. Tars, c'était un milieu stoïcien. Et Saint Paul, dans les Actes, a des formules stoïciennes. Et vous savez que le manuel d'Épictète était un classique chez les moines, voyez. On enlevait seulement le chapitre 32 sur la divination. Mais d'une manière générale, l'austérité convient parfaitement à des moines. L'idée qu'il y a une providence, c'est parfait pour des moines. L'idée qu'il n'y a rien à réclamer, on ne peut mieux, voyez.
Et l'idée d'une sorte de destruction du monde à la fin des temps qui oui. serait éventuellement à mettre sur le même plan qu'un jugement dernier peut également parfaitement convenir.
Tout à fait. Évidemment, la différence, c'est que dans le christianisme, Dieu est transcendant, voyez. D'autre part, il y a la référence de Jésus-Christ, voyez. Mais l'esprit général de religiosité qui s'est installé à ce moment-là dans le monde grec et surtout ensuite dans le monde romain, et qui a influencé grandement les Romains, y compris les jurisconsultes romains, a préparé ensuite l'esprit du temps à accueillir le christianisme. Oui. Et c'est pourquoi, plus tard, bien des chrétiens ont été en même temps stoïciens, voyez, au XVIIe siècle, au XVIe, et aujourd'hui, ça c'est une autre question. Encore. Mais pour le XVIe siècle, il y aurait toute la question du stoïcisme de Montaigne, par exemple, ensuite Guillaume du Vert, etc. Et permettez que je lise une phrase du traité des devoirs de Cicéron. Dépouiller autrui et augmenter ses aises aux dépens des autres. Voilà qui est contraire à la nature, bien plus encore que la mort, la pauvreté, la douleur, que tous les accidents qui peuvent arriver à notre corps ou à nos biens extérieurs, car c'est là supprimer la vie commune et la société des hommes. Si nous sommes disposés à dépouiller et à léser autrui à notre profit, la société du genre humain, qui est par-dessus tout conforme à la nature, doit nécessairement se rompre. Alors ici, c'est l'affirmation absolue que nous ne faisons qu'un avec tous les autres du genre humain. Il y a une seule équipe humaine. Et il y a chez les stoïciens ce sentiment très fort d'une solidarité humaine qui traverse toutes les nations, toutes les cités, et qui va jusqu'aux extrémités de l'humanité. Et il n'y a pas le mot amour, comme chez les chrétiens, mais il y a cette notion d'un devoir humain de chaque homme envers tout homme.
C'était le stoïcisme à l'ombre d'un portique, une série des chemins de la connaissance proposée par Pascal Lismonde, avec la participation de Carlos Lévy, professeur à l'université de Paris-12-Créteil, et de Marcel Conche, philosophe et ancien professeur à la Sorbonne. Les textes étaient lus par Evelyne Guimara, le mixage était fait par Monique Prat, et la réalisation était assurée par Michel Bossuet. Et puis cette émission était plus particulièrement dédiée à la mémoire de Jean-Noël Vuarnet, disparu en mars dernier, Jean-Noël Vuarnet, qui était entre autres traducteur de Sénèque.